et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas d'annonce de remaniement avant vendredi soir. Emmanuel Macron souhaite prendre tout le temps nécessaire, indique l'Élysée, qui dément tout bras de fer avec le Premier ministre. À l'Assemblée, l'opposition fait entendre son scepticisme. La Cour de cassation ouvre la voie de l'indemnisation aux patientes porteuses d'implants PIP. Elle vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui dédouanait la société allemande chargée de la certification de ses prothèses mammaires. Transparency International et Global Witness dénoncent les dérives des visas dorés en Europe. Accorder la citoyenneté ou le droit de résidence à des non-européens en échange d'investissements sans contrôle ni transparence ouvre la porte à des criminels et des corrompus en quête de refuge en Europe, affirment les ONG. Et à la veille du 17e sommet de la francophonie, le dossier du 18h est consacré aux lycées français à l'étranger, inquiet des baisses de budget successives depuis 5 ans. Emmanuel Macron assume totalement de prendre du temps, nous dit Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Le président s'envole pour l'Arménie et aucune annonce ne sera faite avant son retour vendredi soir. Son entourage a tout de même précisé que le remaniement ne concernerait pas seulement le ministère de l'Intérieur. Il y aura des entrants, des sortants, de possibles changements de périmètre et redécoupages de portefeuille. Mais plus l'attente se prolonge, moins l'opposition retient ses coups. Illustration à l'Assemblée, vous avez suivi la séance des questions au gouvernement, Olivier Chandiou.
Oui, et cette séance commence dans une ambiance électrique. Le feuilleton du remaniement agace profondément les députés de l'opposition. Jean-Pierre Vigier, élu Les Républicains de Haute-Loire, donne le ton.
Monsieur le Premier ministre, la mascarade continue. Toute cette invraisemblable cacophonie n'aura permis au fond que de mettre en lumière l'affaiblissement de l'exécutif et votre incapacité à former une équipe gouvernementale digne de ce nom. Depuis 10 jours, vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Alors, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à ce psychodrame ?
Un psychodrame fait de pronostics et de bruits de couloirs relayés par la presse, et notamment un, le désaccord qui existerait sur la composition du gouvernement entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, une rumeur que le Premier ministre balaye d'un revers de main.
Je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre.
Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, veut nous dire Édouard Philippe. Une expression que le Premier ministre a d'ailleurs empruntée à son ancien mentor, Alain Juppé. Le maire de Bordeaux l'avait employé en 2012 pour évoquer sa relation avec Nicolas Sarkozy, alors qu'il était son ministre des Affaires étrangères. Toujours est-il que ce remaniement s'éternise et pour l'opposition, cela montre les limites d'Emmanuel Macron qui ne dispose pas, selon elle, d'un vivier important de potentiels ministrables et d'une assise politique suffisamment importante.
Olivia Chandiou, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla a achevé ses auditions. Les sénateurs ont entendu ce matin Sophie Hatz, l'ancienne responsable de la sécurité à l'Élysée. Il s'agissait de la 28e audition pour la Chambre haute. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Alors ces auditions ont-elles permis d'en savoir un peu plus sur Alexandre Benalla et sur son rôle auprès du chef de l'État?
Oui, sans aucun doute, ces auditions resteront un moment fort de cette affaire Benalla, surtout si on les compare avec le fiasco qu'a été la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont auditionné 28 personnes depuis le mois de juillet, dont Alexandre Benalla le 19 septembre dernier. 2h30 d'audience pendant lesquelles il est apparu très sûr de lui, très calme. Il a assuré n'avoir été qu'un simple collaborateur d'Emmanuel Macron et pas son garde du corps, une version qui n'a pas convaincu les sénateurs. Tout comme ses réponses aux questions autour de son permis de port d'armes. Selon Alexandre Benalla, cette arme n'était pas destinée à défendre le chef de l'État, mais à assurer sa propre sécurité. Les auditions sont donc désormais achevées pour les sénateurs. Ils vont effectuer un travail d'analyse désormais et notamment mettre en évidence les contradictions qui ont émergé de ces auditions. La commission devrait rendre son rapport avant la fin de l'année, mais ça ne sera pas la fin de l'affaire Benalla, loin de là. Il y a le volet judiciaire de cette affaire. Alexandre Benalla a été mis en examen suite à la vidéo montrant les violences sur des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Il y a également l'enquête policière, l'IGPN, saisie à la demande de Gérard Collomb, qui va devoir détruire déterminer les responsabilités dans la présence d'Alexandre Benalla en tenue de policier lors de cette manifestation du 1er mai.
Antoine Marette, le nouveau régime de retraite devrait entrer en vigueur dès 2025, mais ce régime par points permettra de conserver les droits déjà acquis, précise le haut commissaire à la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye prévoit une transition progressive pour tenir compte de la diversité des situations initiales. Mais au bout de 40 ans de mise en œuvre du nouveau système, tout le monde sera concerné par ce régime universel. Jean-Paul Delevoye.
C'est un système qui libère, pas qui enferme, pour que chacun, à même carrière, à même taux de cotisation et la même retraite. Quel avantage, y compris même pour les fonctionnaires qui nous l'ont dit, d'arrêter d'être stigmatisé parce que mon voisin me dit « à toi t'es fonctionnaire, t'as forcément une meilleure retraite », ce qui n'est pas toujours le cas. C'est quand même extrêmement sain de savoir que nous voulons bâtir un système que, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre localisation, vous allez toucher les mêmes droits à même cotisation.
Les partenaires sociaux attendaient avec impatience d'en savoir plus sur la réforme des retraites. Mais à l'issue de la rencontre avec Jean-Paul Delevoye, Catherine Perret, numéro 2 de la CGT, voit ses inquiétudes confirmées.
Ce nouveau système va faire baisser mathématiquement le niveau des pensions de 90% des personnes. C'est tout simple. À partir du moment où on ne calcule plus sur les 25 années dans le privé ou bien les 6 derniers mois dans le public, eh bien, on prend en compte l'intégralité du temps travaillé. Et mathématiquement, comme il y a de fortes périodes de précarité, des périodes y compris liées aussi aux maternités, eh bien, ça va faire tomber le niveau des pensions. Et on dit très clairement, ce sont les femmes, demain, celles qui ont les salaires les plus fragiles, celles qui sont par exemple en temps partiel imposé, qui sont du secteur privé, qui vont être le plus impactées immédiatement par cette contre-réforme. Et d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui on savait à peu près le taux de remplacement qu'on avait, 75% pour ceux qui avaient travaillé toute leur vie, eh bien demain, on ne saura plus rien et on n'aura plus du tout de vision sur le niveau de retraite.
Catherine Perret de la CGT avec Ersine Lebovitch. Le MEDEF, lui, se dit dans l'ensemble relativement satisfait des principes énoncés. Gérard Filoche s'explique devant la justice sur le tweet dénoncé comme antisémite et qui lui a valu d'être exclu du Parti Socialiste en novembre dernier. L'ancien représentant de l'aile gauche du PS comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine ou à la violence. Vous avez suivi l'audience, Christine Monclat.
Une audience qui n'est toujours pas terminée, Aurélie. 3 heures de débat déjà et un hors-sujet sur presque toute la ligne car Gérard Filoche comparait, vous l'avez dit, pour provocation publique à la haine, ce qui implique techniquement au minimum une exhortation implicite. Or, les échanges se font depuis le début sur un mode uniquement politique. L'ex-socialiste transforme chacune de ses réponses en mini-meeting anti-Macron. Et puis en face, certaines parties civiles cherchent à le pousser dans les cordes de l'antisémitisme. Peut-on être de gauche et antisémite, demande ainsi par exemple un avocat d'une association à l'un des témoins cités par Gérard Filoche. La présidente du tribunal elle-même se focalise sur le contenu du photomontage incriminé diffusé par Gérard Filoche. Pour rappel, il s'agit d'une photo d'Emmanuel Macron portant un brassard aux couleurs nazies, entouré de 3 personnalités juives sur fond de billets de banque et de drapeaux israéliens, une image pour laquelle le militant d'extrême droite Alain Soral a été jugé et relaxé par ce même tribunal en mars dernier. Je l'ai tweeté sans la regarder vraiment, sans voir l'arrière-fond. C'est une erreur de manipulation de ma part, plaide sans relâche Gérard Filoche à la barre, combatif et essoufflé. Il aurait été de toute façon stupide de ma part de comparer Macron à Hitler, poursuit-il, car Macron, c'est pas Hitler, c'est Thatcher. Depuis quelques minutes, cependant, l'audience a changé de ton. Après les avocats des associations antiracistes proches d'Israël, place aux défenseurs de la LICRA ou du MRAP, qui sont eux sur une autre position. Eux n'évoquent pas l'antisémitisme supposé ou pas de Gérard Filoche et lui font crédit d'ailleurs de sa bonne foi en la matière, mais il pointe sa responsabilité d'homme public, d'homme politique qui diffuse de tels contenus. Si un tel tweet n'appelle pas à la haine du juif, alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Interroge ainsi l'un de ses avocats. Pour eux, le plus important, c'est de ne plus laisser passer ce genre de propos publics. Et Gérard Filoche, tout antiraciste, tout militant de gauche, tout fondateur, cofondateur de SOS Racisme qu'il soit, eh bien, il doit leur servir d'exemple.
Christine Monclat au Palais de Justice de Paris avec Raymond Albouy à la technique. Son arrêt était attendu par de nombreuses femmes. La Cour de cassation donne raison aux 1700 plaignantes dans l'affaire des implants mammaires défectueux PIP. En 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dédouané la société allemande TÜV, l'organisme chargé de vérifier la qualité des prothèses. Mais pour la Cour de cassation, Christophe Richer, le certificateur a manqué à ses obligations.
TUV est inconnue du grand public. Elle a son siège à Nuremberg. Cet organisme est chargé de certifier la bonne qualité d'un implant mammaire. Or, pendant près de 10 ans, de 2001 à 2010, TUV France, sa filiale, a procédé à 13 audits au sein de la société PIP. Problème, elle ne s'est jamais aperçue que PIP utilisait un gel pour ses implants qui n'était pas autorisé par la réglementation européenne. Et ce gel a provoqué des infections ou des inflammations pour des milliers de femmes, 30 000 en France, 400 000 dans le monde. Le scandale a éclaté en mars 2010, après un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est là qu'une partie des regards s'est tournée vers les Allemands de TUV. Le premier procès à Toulon a mis en lumière des manquements liés à l'évaluation de TUV sur le produit final, les prothèses de PIP. Ils ont donc été condamnés une première fois en 2013. Deux ans plus tard, la Cour d'appel d'Aix avait dédouané l'organisme allemand de toute responsabilité. Aujourd'hui, la Cour de cassation valide donc la décision prise par le tribunal de Toulon et reprend l'avis de l'avocat général Jean-Paul Sudre de mai dernier. TUV avait tous les éléments sous les yeux pour reconnaître la défaillance de la société PIP et l'empêcher de vendre ses prothèses défectueuses. Un nouveau procès devant la Cour d'appel de Paris devrait avoir lieu d'ici au moins deux ans.
Christophe Richert. Deux ONG mettent en évidence les dérives de la pratique des visas dorés, visas accordés par des pays de l'Union européenne pour attirer les investissements étrangers. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Selon le rapport co-rédigé par Transparency International et Global Witness, quelques 6 000 passeports et 100 000 permis de séjour ont été accordés à des non-européens en échange d'investissements et en l'absence de contrôle et de transparence.
Oui, les données sont difficilement accessibles, elles ne sont pas harmonisées au niveau européen, donc les compiler n'était pas si simple. Les pays européens qui reçoivent le plus d'argent de ces passeports dorés sont dans l'ordre l'Espagne, Chypre et le Portugal, puis Royaume-Uni, Hongrie et Grèce, Malte, Lettonie. La France, l'Autriche, la Bulgarie, le Luxembourg et les Pays-Bas accordent aussi ce type de visa économique, mais le rapport ne sait pas dire combien ont été accordés. En France, il faut un investissement minimal de 300 000 euros et que celui-ci crée ou maintienne des emplois. La mesure existe depuis 2016 et en échange, un visa temporaire est accordé, contrairement à l'Autriche, la Bulgarie, Malte et Chypre, où c'est carrément l'accès à la citoyenneté qui est possible. Le passeport autrichien étant le plus cher, il coûte 10 millions d'euros. L'Espagne est le pays qui accorde aussi le plus de ces passeports dérogatoires, 25 000 passeports à ce jour, suivi de la Hongrie et la Lettonie, et ceux qui en bénéficient sont majoritairement chinois et russes, les Chinois représentant seuls les deux tiers de ces passeports dorés. Alors ce que déplorent en effet les deux associations qui ont écrit ce rapport, c'est le peu de contrôle associé à ces procédures. En Hongrie, en Lettonie, au Royaume-Uni, le taux de refus ne dépasse pas les 9%. Or, ces visas permettant ensuite de voyager dans toute l'Union européenne, les pays qui accordent ces visas mettent potentiellement la sécurité de leurs voisins en danger pour remplir leur propre caisse publique sans que cela ne déclenche aucun débat, regrettent les deux associations.
Marie Viennot, 8 jours après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la thèse de la disparition forcée ou de l'assassinat par des agents de son pays se renforce. Des télévisions turques ont en effet diffusé des images de vidéosurveillance montrant l'entrée du journaliste critique du pouvoir de Riyad au consulat saoudien d'Istanbul. Elles montrent aussi les allées et venues d'un van noir dans lequel le journaliste pourrait avoir été transporté. Mais pour l'instant, Valérie Krova, la disparition de Jamal Khashoggi suscite peu de réactions internationales.
Oui, on sent beaucoup d'embarras, Aurélie, depuis que Jamal Khashoggi a disparu après s'être rendu au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. La France s'est contentée il y a quelques jours d'un communiqué dans lequel le Quai d'Orsay exprime sa préoccupation et dit souhaiter que la situation soit éclaircie au plus vite. Les mots sont pesés. Les relations entre Riyad et Paris ont, il est vrai, connu récemment un coup de froid après que l'ambassadeur de France au Yémen, qui s'est installé en Arabie Saoudite en raison de la guerre, avait souhaité se rendre à Sanaa, une ville contrôlée par les rebelles houthis. L'Arabie Saoudite s'était crispée, elle qui combat les rebelles chiites soutenus par l'Iran. Alors pour ne pas froisser davantage le royaume wahhabite avec lequel la France est en affaire dans plusieurs domaines, et notamment la vente d'armes. Depuis 10 ans, l'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros client de l'industrie de l'armement française. Et bien Paris a donc opté pour la prudence concernant les soupçons d'assassinat qui entoure la disparition du journaliste saoudien. Idem pour les États-Unis, autres alliés de taille de Riyad dans la guerre au Yémen qui ont demandé à l'Arabie Saoudite de mener une enquête approfondie et transparente. En fait, il n'y a guère que la Turquie qui met la pression sur Riyad et lui demande d'apporter des preuves selon lesquelles Jamal Khashoggi est bien sorti du consulat saoudien. Les deux pays qui se disputent le leadership de l'islam politique sunnite ont des relations tumultueuses, notamment depuis que la Turquie soutient le Qatar, frappé par un blocus décidé par l'Arabie Saoudite.
Et Reporters sans frontières souligne que cette disparition de Jamal Khashoggi s'inscrit dans une vague de répression sévère et souvent opaque qui vise les journalistes saoudiens. Selon l'ONG, plus de 15 journalistes et blogueurs ont été arrêtés dans la plus grande opacité depuis septembre 2017. C'est une première dans le monde arabo-musulman. La Tunisie a adopté une loi criminalisant toute forme de discrimination raciale. Par 125 voix pour, une contre et 5 abstentions, le Parlement tunisien a adopté un projet de loi portant sur l'élimination de toutes les formes donc de discrimination raciale. Les peines encourues vont jusqu'à 3 ans de prison. Les précisions de Maureen Mercier à Tunis.
Être noir, tunisien ou subsaharien, c'est risquer d'entendre dans les transports publics ceci.
Kalouche, kala.
Nègre, singe.
Voilà, ce sont des termes qui reviennent au quotidien.
Plus grave encore, ces dernières années, des agressions ont ébranlé le pays tout entier. MacArthur Deogan Nyopacho préside l'association des étudiants africains en Tunisie. À chaque fois, son association portait plainte, mais en vain.
Il y a eu plusieurs agressions, notamment le 24 décembre 2016, où il y a eu l'agression de 4 étudiants congolais. Il y a eu également une étudiante rwandaise qui a été bousculée par son bailleur et finalement qui était enceinte et qui a perdu son bébé. On a enregistré le cas aussi d'une étudiante congolaise qui s'est fait casser même le bras gauche. On a porté une plainte mais qui n'aboutit finalement à rien, tout simplement parce qu'il y avait cette absence de la loi qui puisse condamner ces actes-là.
La donne a changé, le défi désormais, faire en sorte que cette loi soit appliquée. Ceux qui seront condamnés pour discrimination risquent jusqu'à 3 ans de prison.
Finalement, nous on s'est bataillé, on est sorti dans les rues, la loi est entrée en vigueur, maintenant il faut l'appliquer pour que voilà, la Tunisie puisse être un pays de modèle. Nous, en tant que société civile, c'est notre rôle finalement d'accompagner le gouvernement dans l'application de cette loi qui est entrée en vigueur. Si les gens ne bougent pas, on va les obliger à bouger. Voilà.
La Tunisie signe ici une révolution. Premier pays arabe et musulman à avoir aboli l'esclavage en 1846, la Tunisie entend rester à l'avant-garde.
C'est en Arménie, le pays d'origine de Charles Aznavour, que la francophonie est célébrée cette année. Une cinquantaine de dirigeants internationaux seront présents demain à Yerevan pour le coup d'envoi de ce 17e sommet de la francophonie. Mais alors que la langue française est à l'honneur, le réseau des lycées français à l'étranger traverse une crise profonde. Les subventions accordées par l'État baissent depuis 5 ans. Alors quel est l'impact de ces restrictions budgétaires? Élise Delève s'est rendue au lycée français de Madrid pour le mesurer.
Comme les choses sont un peu compliquées, c'est en alexandrin. C'est difficile à comprendre et il serait complètement ridicule que...
Hernani de Victor Hugo est au programme d'aujourd'hui. Devant 30 élèves, le professeur de lettres décrypte la subtilité de cette pièce de 1830 dans ce lycée qui s'étend sur 10 hectares. 70% des inscrits sont étrangers. Ils suivent tous les cours en français.
Carlota, Terminales. Mes parents sont espagnols, mais je suis ici avec ma mère, était dans cette école aussi quand elle était petite. C'est pas genre un système espagnol d'apprendre tout par cœur et après dans le contrôle relâché, c'est plutôt apprendre à penser. C'est pour ça que je suis ici.
Grâce à cet enseignement, Carlota pense qu'il sera plus facile de travailler en France ou au Québec, là où les salaires sont supérieurs à ceux d'Espagne. Mais pour l'instant, elle profite de la pause déjeuner avec ses copines pour brancher son téléphone sur une enceinte. Bien loin des craintes de ses professeurs. L'année dernière, dans le monde, les subventions pour l'enseignement français à l'étranger ont chuté de 8%. À Madrid, 8 postes de titulaires ont été supprimés, remplacés par des contrats qu'on appelle locaux, des emplois auxquels on postule sans formation spécifique. Jean-Baptiste Ribé, professeur de maths et représentant du SNES-FSU.
En mathématiques, on a recruté un jeune ingénieur. En histoire géo également, une jeune étudiante qui n'a pas encore d'expérience. Ses collègues ont les capacités académiques pour enseigner, mais le métier d'enseignement, c'est quand même un métier, on va dire, un peu artisanal, donc il s'apprend en faisant. Et donc, c'est des collègues qu'on doit accompagner pour s'assurer qu'ils soient opérationnels dès le départ.
D'ici 2020, plus de 500 postes seront supprimés dans le monde. Et certains craignent d'être obligés de rentrer en France. Guillaume Finet enseigne la technologie depuis 19 ans à Madrid.
On vit dans le stress à l'heure actuelle. Mais le stress de savoir si la vie familiale va changer. Mes enfants sont hispano-français. Ils ont toute leur vie qui est ici. Ma femme a son emploi stable ici en Espagne. Et la rupture du contrat de la part de l'État nous obligerait à peut-être à rentrer et à nous retrouver dans une situation qui serait précaire.
Les parents d'élèves, eux, s'inquiètent du coût des études. Ils financent 60% du budget des lycées français. Il faut compter 5 000 € l'année pour chaque enfant. Trois parents de Madrid, dont Hassan Faki, ont lancé une pétition pour demander un gel des frais de scolarité. 15 000 personnes l'ont signé.
Il y a un ras-le-bol sur les augmentations perpétuelles de frais de scolarisation. Et j'en connais beaucoup de parents étrangers qui sentent actuellement la limite rouge. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de sacrifices, mais à un moment donné, ils ne pourront plus poursuivre au sein du lycée pour des raisons économiques.
Parents d'élèves et enseignants espèrent être entendus par le gouvernement. Plusieurs missions sont en cours pour faire un état des lieux de l'enseignement du français à l'étranger. Emmanuel Macron souhaite une réforme du système. Elle devrait être annoncée d'ici la fin de l'année.
Élise Delève à Madrid et un dossier sur la francophonie à retrouver sur franceculture.fr. Demain jeudi, le temps sera encore pluvieux sur les régions méditerranéennes. De la pluie aussi sur l'ouest, mais du soleil ailleurs. Les températures resteront douces pour la saison. 9 à 18 degrés le matin, 18 à 26 l'après-midi, jusqu'à 27 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.